Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'after, tout le monde, en direct sur RMC, 7 jours sur 7, jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. After court, il va falloir être efficace, les gars, le rugby nous a mis tard. Florent Gautreau est là, salut Flo.
Salut Thibaut, salut à tous.
Et Stéphane Guy également, salut Stéphane.
Citoyens, bonsoir.
Au programme ce soir, les trophées UNFP. On sera en direct du pavillon Gabriel dans quelques minutes. Le récap complet, Mbappé élu meilleur joueur pour la quatrième année consécutive. Tu tombes de ta chaise,
remonte, t'es bien assis, Stéphane.
T'as pas eu le doute avec Messi quand même? Tu t'es pas dit, ils vont
non,
nous mettre...
Non. Alors Messi dans l'équipe type, déjà, ça m'interpelle.
Trophée UNFP, on rappelle que ce sont les footballeurs qui votent pour
exact.
Les footballeurs.
Respect.
On en parle dans quelques instants. Le PSG, champion de France pour la 11e fois de son histoire hier soir. Ce 11e titre fait-il du PSG le plus grand club français? On en débat avec vous tous au 32-16. Avis tranché de Flo Gautreau, si on a le temps, on va pas se mentir. Nantes va se maintenir, nous dit Flo. J'aimerais bien entendre tes arguments. Et vous entendrez également, vous supporters nantais, Auxerrois au 32-16 ce soir. Et puis les drôles de dames dans le dernier quart d'heure. On approche de la fin, voire même ça se termine en... C'est fini en Angleterre, en Espagne, en Italie. Fred Hermel, Yoann Crochet et Julien Laurent seront là sur tous ces sujets. Le 32-16 pour venir débattre avec l'after. Vous commentez l'émission sur Twitter, le hashtag RMC Live, sur le Direct Studio, sur les applis. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on accueille Flo Germain. C'était pas prévu ce soir, mais il est là. Salut Flo.
Salut les amis, salut Thibaut. Alors, salut Flo, salut Stéphane.
On entend de l'ambiance, c'est pas de la fausse ambiance, il est pas au Vélodrome ou quoi. Flo était au rugby ce soir, il est en direct de Mayol. Ouais,
d'accord.
Où Toulon.
Je crois qu'il était en train de cramer des fumigènes dans la grande
liche, mais. Alors, ça va, j'ai lâché les fumis. Mais il y a Paris C, Bastaro qui reçoivent un hommage bien mérité à Toulon et ils font tourner également le trophée du challenge européen dans Mayol. Donc, j'ai 5 bonnes minutes, ne vous inquiétez pas. Avant les confs de presse et réactions d'après-match, ce sera un peu plus tard.
Et alors, sachez que Flo n'est pas venu nous parler de Bastaro. Non. Mais de l'Olympique de Marseille, Flo, info RMC Sport ce soir concernant Igor Tudor. Et ça sent le départ pour l'entraîneur de l'OM.
Oui, on peut le résumer comme ça. Il y a une vraie tendance qui est au départ du Croate. En tout cas, un avenir très très incertain et des tout prochains jours qui vont être décisifs parce que Igor Tudor l'avait dit lors d'une conférence de presse la semaine dernière qu'il allait rencontrer ses dirigeants. Et effectivement, c'est assez imminent. Il va y avoir une rencontre avec les dirigeants de l'OM, notamment Pablo Longoria, pour faire le point, le bilan, évoquer l'avenir. Tout le monde a un petit coup d'avance dans ces cas-là et j'ai très clairement le sentiment que le club se prépare au fait que Igor Tudor ne poursuive pas l'aventure. Est-ce que c'est une décision commune ou plus de Tudor ou plus du club? Moi j'ai l'impression que des deux côtés on a le sentiment qu'il vaudra mieux arrêter l'aventure. Déjà Igor Tudor se sent un petit peu mal aimé, il sait que ses méthodes ont froissé dans le vestiaire. Il a très clairement fait le bilan. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu entendre ses prises de parole là, cette semaine, mais très clairement, ce n'est pas anodin. C'est à chaque fois une prise de parole pour défendre sa saison, défendre son bilan, comme si il faisait le point sur son aventure marseillaise au-delà du simple bilan de la saison. Ça transpire vraiment dans les propos de Igor Tudor. Et puis, du côté de l'OM, alors, on est prudent. Hein, du côté de l'OM, on veut se détacher un peu des résultats actuel parce qu'effectivement il y a eu quand même une certaine démotivation et une cassure après Lens, donc on va faire les choses par étapes. D'abord discuter avec Igor Tudor. On nous promet que pour le moment l'OM n'a pas ciblé de successeur, mais on n'est pas obligé de le croire à 100% puisqu'on a quand même vu par le passé que Pablo Longoria aime avoir un coup d'avance et très honnêtement je reste convaincu qu'il avait senti les choses pour Jorge Sampaoli et qu'il avait déjà réfléchi. Donc il faut se préparer à un probable départ d'Igor Tudor de l'OM. On verra ça dans les tout prochains jours.
Tout le détail, même si c'était déjà très complet sur ces infos tout d'or sur rmcsport.fr. Merci beaucoup Flo.
Je peux poser une question à Flo quand même?
Vas-y, bien sûr.
Une petite question Flo, parce que ton sentiment à toi, c'est Tudor qui a envie de partir ou c'est Longoria qui a envie de tourner la page Tudor?
Pour moi les deux.
D'accord.
Pour moi les deux, Igor Tudor sent qu'il aura peut-être des difficultés à asseoir ses méthodes sur la durée. Très clairement, il se sent mal aimé dans le vestiaire. Il sent que ça n'adhère plus et que la fin de saison est très épuisante aussi pour lui. Et puis après, du côté de l'OM, alors globalement, je vais insister là-dessus, on est satisfait du travail de fond qu'il a fait, c'est-à-dire l'intensité qu'il y a eu dans les matchs globalement, également cette culture du travail qu'il a inculqué dans le vestiaire. Ça, c'est vraiment non négociable pour les dirigeants, et ça on apprécie. Et au final, au moment du bilan, je pense qu'on appréciera le travail qui a été fait par Tudor. Mais malgré tout, il y a eu des échecs importants, Annecy en Coupe de France, les gros rendez-vous, l'OM n'a pas été là, notamment en Ligue 1. Le système de jeu, peut-être que par moment Igor Tudor, je différencie bien le style de jeu fait d'intensité de Niak et d'un gros volume global de l'équipe, et le système où c'est vrai qu'il n'a jamais changé, il n'a jamais évolué dans son système de jeu. Et il y a une réflexion aussi football qui est faite par les dirigeants, je crois, donc voilà, la balance se fait, mais très clairement j'ai l'impression vraiment que ce sont des deux côtés, c'est des deux côtés qu'on pense à un départ du coach marseillais.
Flo, merci beaucoup pour toutes ces infos. Bonne soirée à toi. 32-16, supporter marseillais, pour réagir à ces infos et venir en débattre. Petite parenthèse, on parlera également, on sera sur le trophée UNFP tout à l'heure, Kylian Mbappé qui vient d'annoncer qu'il jouerait au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ça, il veut honorer son contrat, il a dit je serai là l'année prochaine, ouais. Ce qui a son importance puisqu'on sait qu'il est en fin de contrat avec une année qu'il peut lui-même activer dans un an.
Il me reste une année, a-t-il bien dit.
Oui.
Alors qu'il avait la clause, il aurait pu l'activer. Ouais. Enfin, il aurait pu répondre à une clause de ses dirigeants dès maintenant.
Ce qu'on peut juste en conclure, c'est qu'a priori pas de vente donc du Paris de Mbappé de Paris cet été. On en parlera tout à l'heure. L'OM donc 32-16, on vous attend. Flo, Stéphane, déjà, est-ce que vous êtes surpris par ce que nous annonce Florent Germain ce soir ? Et si Tudor s'en va, est-ce que c'est vraiment un coup dur pour l'OM ?
Moi, je suis surpris. Oui. Je trouve incroyable qu'un club change d'entraîneur tous les ans. Quand il est deuxième la première année, troisième la deuxième année. Je pense que c'est un vrai frein. Je pense que il y a un côté politique du chamboule tout dans ce que fait Longoria, qui doit pas être que sportif d'ailleurs, de mon point de vue à moi. Et je pense qu'à un moment donné, déjà cette année, ça passe ric-rac, parce que moi je trouve que ce qu'a fait Tudor avec l'effectif qu'il avait en championnat, en tous les cas, c'est difficilement attaquable. Il est devancé par une équipe qui a 10 fois les moyens de l'OM et devancé par une équipe qui a été sur une dynamique exceptionnelle. Donc l'OM est à sa place. Et certes, il est sûr dans les coupes, mais je trouve que ne pas installer un entraîneur sur la durée dans un club comme Marseille, c'est un frein au développement, et c'est repartir encore avant un été qui va être compliqué, pratiquement de zéro. Donc ouais, je trouve ça assez surprenant.
Florent.
Oui, alors c'est surprenant, effectivement. Je pense que chez Longoria, il faudrait savoir quel est le projet, en fait, précisément. Parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment un projet à long terme ? Est-ce que c'est vraiment l'idée de relancer l'OM sur des bases, et quelles bases ? Ou est-ce qu'il va passer 3-4 ans à faire des choix, qui sont plutôt bons, hein, d'ailleurs, la plupart du temps, du trading aussi, quand même, il faut le dire, et puis à repartir ailleurs, puisque Longoria a lui aussi des ambitions.
Du trading, le trading, ça veut dire acheter des joueurs pas chers, les développer, les revendre très cher. C'est pas ce que fait l'OM. L'OM fait beaucoup de transferts. Il y a beaucoup d'opérations. C'est un président qui fait beaucoup, beaucoup d'opérations. Ouais. Et je pense qu'on aura le temps dans
trading,
les semaines qui viennent de poser les
pour
choses
ça.
Sur la table et de regarder opération par opération ce qui se passe. Qu'on ait une espèce de bilan positif de Longoria, mais faudra regarder, mettre les chiffres en face des joueurs.
Je veux pas dire que ce que tu veux dire, c'est que dans ces opérations-là, pas sûr que l'OM soit dans une balance positive au final.
Non, et puis surtout, oui, il y a beaucoup de. Je pensais cet après-midi à ce qu'a fait Lens cet hiver et ce qu'a fait l'OM. Bon, avantage Lens.
Ah oui.
Ils ont des joueurs qui ont apporté une plus-value sur la deuxième partie de saison parce qu'il y a un raisonnement sportif. C'était pas évident, hein, parce que moi j'étais plutôt alléché par ce qui se passait à Marseille cet hiver. Mais à l'arrivée, ils ont aussi perdu sur ce terrain-là.
Oui, sur Longoria et sur le projet, parce que c'est ce qui m'inquiète, moi, pour l'OM, c'est que Longoria est un président de qualité. Il a montré ses qualités. Mais je pense qu'il a d'autres visions. En fait, Longoria, il est comme les joueurs du foot actuel. C'est-à-dire que je pense qu'il a un plan, enfin un plan de carrière, peut-être pas un plan établi, mais en tout cas, il vise autre chose.
Pour lui-même.
Donc Longoria, il rêve de foot italien, il rêve de.
Bien sûr.
Tu vois, en ce moment, il doit rêver de la Juve, il rêve d'autre chose.
De toute façon, c'est un président qui a pas d'argent.
Ouais.
Donc c'est un président qui vend sa compétence, qui est grande, hein, ouais, et ses services, et qui évidemment vise le club qui a le plus de moyens possible pour qu'il puisse s'amuser avec ses compétences.
Longoria, on est dans ce foot-là. Parfois on s'en désole, parfois on peut aussi s'en féliciter parce qu'il a apporté des choses, Longoria, là, dans cette Ligue 1. C'est du business, c'est un CV. C'est, comme dit Stéphane, des compétences qu'on montre. Donc il est aussi là-dedans, faut le savoir. Et là, c'est vrai que quand il prend Tudor, il prend un risque, puisque Sampaoli était adoré. On se demande comment ça va se passer avec un gars qui, dans le vestiaire, met tout de suite les points sur les i. Et il fait un pari gagnant. Et lui-même reconnaît, même en choisissant Tudor, qui est un coach qui n'est jamais resté plus de un an et demi dans tous les clubs où il est passé. Mmh. Donc c'est vrai que déjà dans l'idée d'un projet, de quelque chose qui dure, c'est compliqué. Alors on peut se dire, tiens, c'est peut-être maintenant, comme c'est un jeune entraîneur, c'est peut-être à partir de maintenant que Tudor va rester. A priori, non. Donc moi, je pense que effectivement, Longoria déjà n'a pas de projet à long terme pour l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que c'est important de savoir pour les supporters que t'as beau avoir un bon président, t'as beau avoir ponctuellement de bonnes choses, tu n'as pas de projet. C'est-à-dire que le club qui est le deuxième club français en termes de budget avec Lyon derrière Paris et qui pourrait concurrencer Paris, qui aurait pu le concurrencer d'ailleurs plus sportivement cette année, en fait, n'a pas vraiment de vrai projet pour les années à venir. Il a peut-être moyen, sur des années ponctuellement, comme cette année, le moyen de faire du mal aux grosses écuries, mais pas plus. Moi, je trouve que c'est ça qui est inquiétant, surtout. Après, du côté de Tudor, effectivement, quand même, cette façon de gérer le vestiaire, cette façon de faire avec ses joueurs, je parle avec tous les joueurs, hein, ceux qui jouent pas notamment, je pense qu'à un moment donné, c'est compliqué de gérer et d'emmener tout le monde. Et de fait, c'est peut-être aussi pour ça que ces expériences à lui ne durent qu'un an et demi.
Beaucoup d'appels au 32-16 ce soir de supporters marseillais. Laï est le premier à nous avoir appelé ce soir. Salut Laï.
Salut tout le monde.
Sois le bienvenu dans l'after. Bon, on va très bien. Et toi, comment ça va Laï?
Ça va, tranquille.
Et quand Flo Germain t'annonce que ton entraîneur est en route pour s'en aller, est-ce que ça va toujours aussi bien ou pas?
Non, surtout pas. Moi, j'ai entendu toujours Flo disait que Sampaoli était adoré à Marseille. Il y avait des gens qui l'adoraient, d'autres qui l'aimaient pas du tout. Moi, j'étais un fan de Sampaoli, comme j'aime bien Tudor aussi. Donc, par rapport à ça, Tudor, moi, j'en ai marre de voir chaque année un nouvel entraîneur. Moi, j'aimerais bien que Tudor reste, mais si lui, il veut partir, bien sûr qu'on va pas le retenir. Mais moi, ce qui me gêne de ce que Flo vient de dire, c'est que le président veut qu'il parte, et lui aussi, mais il veut partir. Donc, moi, Longoria, j'aime bien sûr qu'il a fait des bonnes choses, bien sûr qu'il c'est un bon président. On va pas dire pour un président, c'est un bon directeur sportif, parce qu'en tant que président, moi, je le considère pas, en tout cas, comme président. C'est un bon directeur sportif qui essaie de rendre Marseille, on va dire, meilleur. Mais moi, j'en ai marre de voir chaque année un nouvel entraîneur. Mmh. Là, Rongier, c'était son capitaine. Un nouvel entraîneur va venir, il va mettre Rongier sur le banc. On va dire quoi? C'est comme si qu'on recommençait à chaque fois à zéro. Moi, ça me gonfle. Mmh. Ça commence à me gonfler. Moi, j'interviens souvent sur une chaîne d'un ami qui est OM Football Art, pour les Marseillais qui veulent l'écouter ou le connaître, c'est OM Football Art, ou bien Noah, qui est sur TikTok, supporter Love 27.
Ça y est, la promo est finie ou pas, là?
Souvent là-bas.
Tu sors pas un single, non?
Non, single, non, surtout pas.
Ok. C'est un concert à Martigues vendredi soir, ou à Istres, ou à Ondoum. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que soulignaient Flo et Stéphane, c'est que quelque part, c'est la méthode Longoria, en fait. Longoria savait très bien, en recrutant Tudor, que à chaque fois, il faisait un an et demi maximum dans le club. Et c'est ça, c'est Longoria qui
a mis la main. Il veut la main, Longoria. Il veut la main, c'est ça aussi.
Il nous a dit qu'il veut Tudor par rapport à son jeu, comment il joue, son exigence, et moi je comprends. Mais quand tu veux un entraîneur comme ça, tu le gardes pas une année et tu veux te séparer de lui l'année d'après.
Ce qui est vrai aussi, c'est que ce qui est dommage, c'est que Tudor a apporté, je reviens sur les propos de Florent, et apparemment les dirigeants sont contents, un truc qui en France est compliqué dans le management, cette culture du travail, de l'effort, ce fait d'avoir été capable de gérer le capaillet tel qu'il a géré, je parle du début de saison, pas forcément de la fin de saison, mais quand il l'a mis sur le banc, quand il a expliqué que personne n'aurait de statut, que il avait mis quand même quelque chose avec des gars comme Rongier et Vertu, il a Longoria aussi d'ailleurs en disant au début de saison de cette fameuse conf de presse, il faut remettre les choses dans l'ordre, un président, un directeur sportif, un entraîneur, les joueurs sous l'entraîneur, le club au-dessus de tout ça. Moi je trouvais là pour le coup il y avait un projet et évidemment tu souhaites que ça continue, cette culture-là tu as envie de la voir aussi se développer dans certains clubs en France, dans d'autres clubs. Donc tu t'aperçois qu'en fait tout ça c'est un petit peu de la poudre aux yeux si c'est ça le résultat ce soir et si les infos de Flo Germain se confirment. C'est vrai que t'as l'impression de repartir un petit peu à zéro. Sachant que, quand même, contrairement un peu à ce que dit Stéphane tout à l'heure, ils sont pas tout à fait à leur place, quand même, par rapport à Lens. Parce que, bien sûr, Lens a fait une très belle saison, sportivement, ça arrive. Mais l'OM, ils sont au-dessus de Lens en termes de budget. Et comme ils ont Tudor, qui est effectivement un très bon entraîneur, tu dois être devant Lens, déjà. Tu es peut-être pas devant Paris, évidemment. C'est compliqué. Mmh. Mais au moins devant Lens. Donc, faut reconnaître quand même que sportivement. Non,
mais Lens, tu sais, je passe pas le sujet, mais. La saison de Lens est exceptionnelle. Quand tu finis par 9, moi je voulais en parler parce que ils mettent l'OM KO en gagnant 9 matchs sur 10. Ils ont un parcours à domicile, 17 victoires, 1 nul, 1 défaite à domicile. C'est dans n'importe quel championnat, oui, tu regardes le Napoli, Manchester City, c'est un parcours d'accord. extraordinaire.
Et à l'inverse, et l'OM à domicile, juste
ouais, après. Oui, ouais. D'accord, Flo, mais je veux dire, la saison de l'OM en championnat, en tous les cas, elle est dans les clous. Ils ont plus de points qu'avec leur passé.
Oui, mais à domicile, justement, elle n'est pas dans les clous.
Oui, bien sûr.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que...
Ils font, à contrario, on pourrait dire, le parcours à l'extérieur de l'OM est exceptionnel. Voilà.
En fait, le seul point sur lequel, à la limite, si tu veux juger, mais à mon avis, ce serait une erreur, hein, et ce n'est pas pour ça qu'il quitte Marseille, Tudor qui quitterait Marseille, ce serait de se dire... Oui, c'est vrai qu'il y a l'élimination contre Tottenham qui fait tâche. Celle contre Annecy qui fait encore sûr, plus tâche. Et effectivement, le fait d'être troisième et pas deuxième. Oui. Évidemment, si tu veux
avec la, la fin de
la
parcours,
tête, quoi. Tu peux. Mais ce qu'il a instauré, c'est ce style, le stade plein, et c'est ce nombre de points, tout simplement. Je crois que c'est le plus grand moment, enfin, plus de points que l'an dernier à la même époque. Donc il y a de vraies raisons de, en tout cas, de construire là-dessus.
Oui, mais après, c'est pour ça que c'est étonnant d'arrêter. Le drame du football, c'est le court-termisme. En général, le court-termisme, il dépend des résultats. C'est-à-dire qu'un entraîneur perd 3 matchs, il dégage, et là, c'est pas le problème.
Oui,
les résultats
réussit.
Depuis 2 ans sont cohérents à l'OM. Ils sont même très cohérents.
Je remercie Lai d'avoir été là ce soir au 32-16. Lai qui sera en concert à Avignon la semaine prochaine. Lai, merci beaucoup. À bientôt dans la fleur.
Merci à vous.
Allez,
un petit point juste très très court sur l'OM. Sur la gestion de la fin de saison par Tudor.
On n'a pas fini sur l'OM.
On n'a pas fini, on va y revenir.
Ouais.
Justement,
petite pause. Et dans un instant, on continue sur l'OM avec vous tous au 32-16. Tudor bien parti pour partir, justement. Info RMC.
C'est une grosse info, hein, de Flo Germain.
Signé Florent Germain, vous attend au 32-16. Kylian Mbappé, lui, qui va rester l'année prochaine au Paris Saint-Germain, il l'annonce ce soir. On en débat également avec Florent Gautreau, avec Stéphane Guy, l'after en direct jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h30 pile, merci d'être là ce soir sur RMC en ce dimanche soir, week-end prolongé, tout va bien, ça bosse pas demain pour la plupart d'entre vous, profitez-en, l'after est là jusqu'à minuit avec Florent Gautreau, avec Stéphane Guy, avec vous tous au 32-16, vous êtes nombreux dans quelques instants, le Paris Saint-Germain, les trophées UNFP, le récap de la soirée avec Arthur Perrault et l'annonce de Mbappé qui a confirmé qu'il honorerait son contrat et donc qu'il jouerait au Paris Saint-Germain la saison prochaine, 32-16 supporters parisiens. Mais on conclut sur l'OM et les infos Florent Germain du soir, Tudor en route vers un départ de l'Olympique de Marseille. Dans un instant, Garenne au 32-16. Flo, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter sur cette gestion qui a été ce choix de Longoria déjà qui a été validé, alors que c'est très dur. Je me souviens du mois d'août où on s'est dit vraiment si ça passe pas sur les 4 premiers matchs, ça va être très compliqué. Déjà sur le premier match, c'était très compliqué.
Sifflé avant même d'avoir
commencé. C'était vraiment très très chaud. Et je le dis, il a gagné la confiance de son vestiaire de manière assez forte. Et ensuite, il a perdu cette confiance-là plusieurs reprises. Et je suis pas certain là que les dirigeants aient joué tout leur rôle. C'est-à-dire que on dit que les relations sont correctes, qu'ils apprécient son travail. Mais si tu as dans l'idée de durer justement, est-ce que tu crois pas qu'à un moment donné, par rapport au problème qu'il y a pu y avoir avec certains joueurs, tu interviens pas justement peut-être pour faire évoluer Tudor? Parce que Tudor, on l'a dit, très rigide, mais Tudor, il a évolué, il a été ébranlé par certains trucs. Il a dit dans certaines confs, contrairement à ce qu'il disait au début de saison, par exemple sur Payet, je vais le faire jouer parce que ça n'a pas été si facile pour lui tout le temps. Il a changé aussi. Je pense que à un moment donné, il n'a pas dû sentir le soutien non plus total et nécessaire, et les dirigeants eux-mêmes n'ont peut-être pas su lui dire suffisamment tôt qu'il fallait sans doute changer un petit peu et assouplir le management pour emmener tout le monde. Moi, je pense que là, dans cette gestion-là de l'effectif, il y a eu un souci dans cette saison qui, malgré tout est bonne. Mais pour éviter à Tudor, qui est, je le répète quand même, un assez jeune
seul
entraîneur,
un peu
seul au front, d'aller aussi parfois dans le mur avec une technique, on va dire une méthode qui avait réussi depuis le début de la saison, certes, mais qui commençait parfois à s'essouffler, qui allait parfois au conflit inutilement et qui parfois aussi à l'inverse, de sa part, s'adoucissait de manière un petit peu étonnante parfois. Donc, dans cette gestion-là des joueurs et du vestiaire, Tudor a pas eu forcément le soutien nécessaire de sa direction ou l'aide particulièrement et on en arrive là aujourd'hui à une séparation assez triste en fait.
Je c'est pas encore fait, mais c'est la tendance. C'est la tendance. Garen, supporter de l'OM, nous appelle au 32-16. Salut Garen.
Bonsoir tout le monde.
Sois le bienvenu dans l'after Garen.
Merci.
Tudor sur le départ.
Je croyais que Garen allait nous poser un lapin, mais il est là.
je crois qu'on n'a jamais fait encore celle-là.
Ouais, et puis jamais quand tu viens dans l'after, hein, Garen.
Non, jamais, pas dans l'after, non. Daniel m'en fait des fois, mais pas celle-là. Ah, écoutez, okay. Moi, les gars, je pense que déjà, la première faute pour moi, c'est celle de Pablo Longoria, parce que pour moi, quand tu as Sampaoli comme entraîneur l'année précédente et que tu passes de Sampaoli à Tudor, déjà, je pense que déjà, pour moi, c'est une grosse erreur. Ensuite, Tudor, je pense qu'il a. J'écoutais Florent qui disait que c'est un nouvel entraîneur. Ça fait quand même 10 ans qu'il entraîne, monsieur Tudor. Et quand je vois son CV, ben, je vois qu'il a fait pratiquement un an partout, voire un an et demi, grosso modo. Donc déjà, moi, si demain je suis employeur et que je vais embaucher un gars, le gars, il fait un an et demi partout, bon, je me pose des questions. Deuxièmement, un entraîneur, fait, moi, je ne le juge pas. Fait, je le juge
la, la durée
à...
de foot, juste la durée de foot d'un entraîneur dans. La durée de vie, pardon, d'un entraîneur dans le foot, c'est 18 mois.
Hein. Ouais, d'accord, mais là en sachant que c'était à l'OM, ouais. Tu sais très bien que prendre un entraîneur comme ça, c'est très risqué. Deuxièmement, moi, je suis abonné au Virage Nord depuis longtemps. Avec cet entraîneur, il n'y a jamais eu de passion. Il n'y a jamais eu de lien supporter-entraîneur. Et je pense qu'il n'y en a jamais eu aussi joueur-entraîneur.
Garen, tu remets, il y a eu de la passion, peut-être pas avec Tudor, mais pour son jeu, il y a eu cette année quand même.
Je suis passé la dernière fois dans Rotten sans flamme et j'ai posé la question à Dimeco. Je lui ai dit, quel est le dernier match sur lequel on s'est enflammé? Si vous avez le match en question,
ah, c'est le PSG en Coupe de France.
Voilà, exactement. Ouais. C'est le PSG en Coupe de France qui date février.
Ouais,
donc ça fait un peu quand même un petit bout de temps. Et voilà, en début de saison,
ah, ils ont cuté complètement la fin de saison. Ça, exactement. C'est sûr qu'il faut l'avoir en tête. Et c'est, on dit oui, alors, ils ont perdu Brest, ils sont démobilisés et tout. Non. C'est pas normal de perdre autre match à domicile. C'est pas normal de perdre contre Brest à la 37e journée à domicile. C'est pas vrai.
Bien sûr. Et moi, par rapport à l'intersaison où Sampaoli s'en va, je pense qu'il y a d'autres choix à faire par rapport au niveau d'entraîneur. Quand je vois que Desherby était libre à ce moment-là, maintenant, je pense que Desherby, on peut l'oublier. Je pense qu'il ne viendra plus jamais à l'OM. Et voilà, je pense que Tudor a perdu aussi beaucoup son vestiaire.
Oui, peut-être que De Zerville n'est pas non plus, on ne sait pas. Il était libre, ça ne veut pas dire qu'il était libre pour venir à l'OM. Hein.
Mmh. Ouais, Brighton qui a terminé 6e et on serait avec Julien Laurence tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que tu soulignes, Garen, c'est la responsabilité. En tout cas, il sera en première ligne, Longoria. Parce que c'est vrai que sur le choix du coach, c'est lui qui a pris le risque.
C'est intéressant déjà.
Et j'ajoute un deuxième truc, c'est qu'il y a Longoria et puis. Il va être aussi attendu quand même sur Vitinha. Longoria, il a mis 32 millions d'euros sur l'attaquant portugais, le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. C'est les deux trucs là où il a quand même intérêt à ce que ça marche.
Il y a plusieurs choses sur les transferts. Moi, j'ai mis en cause parfois Tudor parce que je trouvais qu'il faisait pas jouer les joueurs. Est-ce que les joueurs étaient vraiment pas bons? C'est possible. Vitinha y compris. T'as raison sur les 32 millions. Là, il y a quand même un truc assez étonnant. Bon, ça faudra tirer ça au clair. Mais déjà aussi sur les choix des entraîneurs, c'est assez étonnant quand même parce que stratégiquement, en termes de football, il prend deux entraîneurs qui n'ont rien à voir en termes. Si tu pourrais te dire, tiens, on va vouloir installer telle culture ou telle idée de foot. Déjà, dans les deux derniers qu'il vient de choisir, aussi d'ailleurs intéressant les deux qu'ils puissent être, hein, parce qu'on a eu des deux personnalités et deux footballs intéressants à décrypter. Déjà, t'as pas vraiment de ligne directrice. Après, sur le recrutement, il y a une partie qui est, à mon avis, de la faute de Longoria. C'est vrai, mais il faut se rappeler que quand ça a été fait, ce mercato d'hiver, avant qu'on envoie les résultats, on était plutôt satisfait du mercato de l'OM. Donc, on n'a pas critiqué Longoria à ce moment-là. On a plutôt loué sa qualité.
Moi, je pensais très honnêtement cet hiver qu'avec le recrutement, c'est-à-dire Malinovski.
Unai, ils n'ont pas de chance.
Unai
et Vitinha, ils étaient là.
Non, et surtout le fait qu'ils n'aient plus de Coupe d'Europe. Je me suis dit, ça va être l'équipe, l'OM, de la deuxième partie de saison. Et pas du tout.
Garen, merci d'avoir été là ce soir.
Ce qui bat à nouveau merci. En vrai, j'ai eu une idée reçue. Bonne de croire que ces clubs, qui ont des effectifs quand même conséquents, qui sont bâtis pour jouer sur tous les tableaux, n'avoir plus qu'un objectif en tête, c'est très défavorable. Ça ne repose pas, c'est des sordettes de dire ça.
RMCsport.fr, vous avez toutes les infos RMC du soir concernant Igor Tudor et la semaine prochaine, semaine sans match, after de 4 heures. Donc, ça va repartir dès demain pour l'Olympique de Marseille. Il est 23h36 à l'after sur RMC. Flo Gautreau, Stéphane Guy sont là, vous tous au 32-16. L'événement de la soirée, bon, événement.
L'événement, parlons-en.
Oui. Les trophées UNFP, avalés ce soir à Paris, pavillon Gabriel, et Arthur Perrault y a assisté et il est en direct dans l'after. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Et événement dans les feux, événement, tu vas nous récapituler les deux, trois principales.
Est-ce que tu étais en smoking, Arthur? Ah.
Alors non, parce que sache que l'année dernière j'avais mis un smoking et on est dans une pièce en bas où il fait extrêmement chaud et on avait tous que presque terminé torse nu. Donc cette fois-ci c'était t-shirt, pas claquettes chaussettes mais casual comme on dit.
Les 3-4 trophées à retenir, bon, sachant que Mbappé a été élu meilleur joueur et qu'il a fait une grande annonce sur son avenir, Arthur.
Oui, tu disais soirée événement, mais finalement sans grande surprise au niveau des trophées qui ont été remis ce soir. On peut notamment parler des Lensois qui ont été très largement honorés ce soir, à commencer par le gardien Brice Samba, élu meilleur portier de Ligue 1, le coach Franck Hez aussi, meilleur entraîneur de première division. On peut également citer le meilleur joueur français de l'étranger, ce trophée attribué à Karim Benzema qui n'était pas présent ce soir au pavillon Gabriel. L'UNFP lui a remis son trophée jeudi dernier. Et puis évidemment, ce trophée de meilleur joueur de Ligue 1 attribué à Kylian Mbappé, remis directement par le sélectionneur Didier Deschamps qui était présent ce soir avant l'annonce de sa liste. Prochain rassemblement, ce sera mercredi prochain. Et donc Kylian Mbappé qui récupère ce trophée pour la quatrième fois d'affilée, qui a d'abord eu sur scène une petite pensée pour son coéquipier Sergio Rico qui a été victime d'un accident de cheval ce matin à Séville. Il reste hospitalisé ce soir d'ailleurs en Espagne dans un état très préoccupant. Et puis il s'est ensuite présenté face à la presse dans cette fameuse salle dont je vous parlais, où il fait très très chaud, où il y avait beaucoup de monde. Et la question lui a été posée, mais du coup, que va-t-il se passer pour ton avenir au Paris Saint-Germain avec cette fameuse année en option à activer? Je vous propose d'écouter la réponse de Kylian Mbappé.
Je suis là pour parler du trophée. L'année prochaine, je jouerai au Paris Saint-Germain. J'ai encore un an de contrat, donc voilà, je veux honorer mon contrat.
Une saison réussie à titre personnel et à titre collectif.
Ouais, je pense que quand tu gagnes le championnat et que tu es premier de la première à la dernière journée, c'est réussi. Et quand tu es meilleur joueur et potentiellement meilleur buteur, je pense aussi que c'est réussi. Voilà, après, c'est sûr que voilà, on a habitué les gens avec des standards très élevés, mais ça reste quelque chose, comme j'ai dit, qu'il ne faut pas banaliser.
Kylian, pour Brut, s'il te plaît, une petite question. Mm-hmm. C'est la quatrième année consécutive que tu es nommé meilleur joueur de Ligue 1. C'est quoi ton impression, c'est quoi ton sentiment ce soir?
Ah, c'est une fierté. Voilà, je sais que c'était c'est la première fois, jamais personne ne l'a fait. Donc c'est un réel plaisir, comme j'ai dit, de laisser mon nom dans l'histoire du championnat. Voilà, j'ai toujours voulu qu'on se souvienne de moi. Je pense qu'avec tout ça, ça sera fait, non?
Voilà, Mbappé le communicant, mais Mbappé qui vit quand même une nouvelle soirée historique avec ce quatrième trophée pour lui. On rappelle qu'il est pour l'heure, à une journée de la fin du championnat, le meilleur buteur de Ligue 1 avec 28 réalisations devant un certain Alexandre Lacazette.
Merci beaucoup Arthur Perrault et bonne soirée à toi. Petite parenthèse avant que j'oublie sur le Paris Saint-Germain, veut dire que Neymar n'a pas célébré le titre avec le PSG. Parce que vous vous rappelez, Galtier a dit hier que c'était difficile de se déplacer, il était blessé. Voilà, il était au Grand Prix.
Personne
n'y
avait cru, hein, ceci Thibaut.
Bah, s'il fallait en tout cas le croire, il était aujourd'hui au Grand Prix de Monaco. Donc bon, après peut-être son état s'est amélioré dans la nuit. Lionel Messi également.
Il a été déposé en hélico de chez lui directement jusqu'à la loge du Grand Prix de Monaco.
Parce que il dit faut pas banaliser, mais c'est pas qui banalise. C'est le PSG qui banalise. C'est-à-dire que jamais c'est considéré comme un objectif prioritaire du club, ce titre de champion. Donc c'est banalisé en soi. Les joueurs, Neymar est pas là pour le fêter. Messi,
et ce soir, il n'était pas trophée UNFP, il était à Barcelone parce qu'il y avait un concert de Coldplay. Voilà, je voulais juste donner les avis.
Quand même, au passage sur le titre, bon, ça a été beaucoup dit, mais c'est quand même super triste. Là, je parle pour les supporters. Il ne s'est rien passé au retour des joueurs, il y a absolument rien.
Mais quand t'écrases des mouches avec un maillet, tu peux pas faire l'événement.
C'est mais malgré tout, tu vois, quand tu sais que c'est le 11e titre et qu'il y avait une histoire particulière, qu'il y avait quelque chose, tu vois, la déconnexion qui est en train de se faire entre les supporters et leur club.
Écraser une mouche avec un maillet, faut quand même.
Pas facile, hein.
Ouais, pas facile. Parce que le temps, la vitesse de réaction.
Il y a de la place, quand même.
Ouais, il y a de la place, mais il faut un gros maillet. Revenons sur Mbappé, la déclat du soir, qui est quand même araignée. Importante. On rappelle, Kylian Mbappé en contrat jusqu'en 2024 au Paris Saint-Germain, avec une année en option. activable par lui seul s'il le désire. Il dit, je serai là l'année prochaine pour honorer mon contrat. Ce qui veut dire, parce que ça aurait été, quelque part, il met fin, avant même qu'il commence au feuilleton de l'été,
bien sûr,
la vente ou pas de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sera pas vendu.
Non, mais là pour le
connaître, au club.
Comment?
Après, c'est au club de savoir si le club se dit, bah, dans un an, il est libre, donc on active, nous, ouais, la vente, parce qu'on veut rentrer dans nos frais, ou on veut, sachant qu'une année de Mbappé, c'est autour de 300 millions d'euros, hein, pour le PSG. Soit le club active ça, soit effectivement, bah, ils se quitteront bons amis dans un an.
En fait, il a dit deux fois exactement la même phrase. Il l'a dit au discours officiel au moment de la remise de prix, et il l'a dit en zone mixte. Donc, connaissant Mbappé, donc en gros, c'était prévu qu'il donne cette phrase-là ce soir. Donc, c'est clair que l'info est quand même d'importance. C'est qu'effectivement, ils ont décidé, comme tu le dis, de leur côté, de mettre fin, je parle du clan Mbappé, de mettre fin au suspense sur le feuilleton de l'été et de décider de rester. Après, on va être sur le même thème que l'an passé quand même. Les dirigeants vont faire le même discours a priori, mais c'est la construction de l'effectif autour d'Mbappé. En fait, c'est la même chose, sauf que l'an dernier, il y a eu tout ce cinéma sur le côté, on lui donne les clés, soi-disant c'est plus ou moins lui qui décide d'eux. Là, on va voir ce qui va être fait avec notamment Neymar, Messi, pour voir quel effectif tu construis autour de lui. Parce que s'il reste, c'est quand même l'info.
Neymar, Messi qui doivent peser, je pense, en passe décisive, au moins deux tiers des buts d'Mbappé, au moins.
Ah, bien sûr.
Oui, Neymar et Messi, dont c'est plus un secret, le Paris Saint-Germain soit très séparé. Donc, ça veut dire, avec ce que dit Mbappé ce soir, que Paris, comme tu le dis, Flo, va voir construire autour de Mbappé potentiellement pour une seule saison. Parce qu'on, dans un an, il peut partir vite s'il le souhaite.
La seule grosse différence, si on peut avoir quelque espoir, parce que malheureusement, comme les dirigeants ne changent pas, enfin, je pense à Nasser, effectivement, normalement, on ne devrait pas avoir trop de changements de ce côté-là. Mais la seule grosse différence par rapport à l'an dernier, c'est que pour ceux qui pensaient que c'était une très bonne nouvelle d'avoir ce trio, au moins on nous a apporté la preuve que c'était pas une bonne idée d'avoir les trois ensemble. Ils ont montré pour plein de raisons qu'ils n'avaient pas, je parle pour Messi, l'envie de jouer au Paris Saint-Germain. Pour Neymar, ça fait plusieurs saisons qu'il n'en a pas les capacités physiques, à mon avis. Mais bon, après, il y en a qui veulent qu'il souhaite le voir rester. Donc, la seule différence énorme, c'est que sur le terrain et en dehors, il y a des arguments qui plaide en faveur d'un départ des deux, et notamment même du côté de Campos, qui déjà voulait faire partir Neymar l'an dernier.
Alors, Flo, moi je souhaite tempérer ça, parce que Messi, ok, Messi, fin de contrat, il veut partir, ok, ça, il n'y a pas de problème. Neymar, pour l'instant, tout le monde s'active, il va partir. On verra la fin du feuilleton, hein. On verra quel club est capable de recruter Neymar blessé, avec le salaire qu'il a. Moi, j'attends de voir. Évidemment, si Paris prend son salaire en charge, il pourra aller, il trouvera un point de chute. Mais le vrai départ de Neymar, j'attends de le voir pour le croire.
C'est un after qui va très vite. C'est une sorte de petit apéritif avant la semaine qui vous attend. Et c'est ces afters de 4 heures dès demain. Dans un instant, les drôles de dames seront là.
Et juste un mot sur Neymar. Ouais, et s'il restait, ce qui s'est encore passé ce week-end ne fait qu'ajouter au Neymar Circus un épisode supplémentaire.
Johan Crochet, Fred Hermel et Julien Laurence, c'est terminé en Angleterre la dernière journée aujourd'hui. Julien vient de donner les principaux faits du jour. En Espagne, c'était la 37e journée ce soir, et pas mal d'enseignements à tirer également. Et puis en Italie, l'AC Milan a battu la Juve ce soir 1-0 grâce à Giroud. Et puis on apprend ce soir que Spalletti va quitter le Napoli. De Laurentiis confirme
Tudor.
Une année, oui, peut-être que tout va s'embriquer. Et Johan Crochet nous explique tout ça, il est 23h45. L'after continue avec Stéphane Guy et Florent Gautreau.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
23h47 avec Florent Gautreau, avec Stéphane Guy et les drôles de dames pour conclure cet after. Une dizaine de minutes à passer ensemble. Fred Hermel est là, salut Fredo. Et Julien Laurence va nous rejoindre dans quelques instants. Johan Crochet là également, salut Yo.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, il y a le terrain, il s'est passé beaucoup de choses chez vous tous. En Angleterre, c'est terminé. En Espagne, il y avait le multiplex de l'avant-dernière journée. La victoire ce soir en Italie de l'AC Milan sur la Juve. Mais Johan Crochet, l'info, elle vient de tomber. Et c'est le champion d'Italie qui n'a plus d'entraîneur.
Exactement. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. On en avait parlé lundi dans Génération After des drôles de dames. C'était une situation un petit peu tendue et Aurelio De Laurentiis a confirmé ce soir sur la RAI dans l'émission, la fameuse émission Que Tempo Que Fa, qu'il avait libéré Luciano Spalletti de son contrat. Il le remercie. Il dit dans la vie, il faut être généreux. Il nous a abonné. Je le remercie. Je le libère de son contrat et il explique que Spalletti lui a dit que il avait tout donné, que selon lui, un cycle se terminait et qu'il voulait avoir une année sabbatique. Donc, on n'aura pas Luciano Spalletti sur un banc la saison prochaine. Il sera sans doute de retour dans sa Toscane à s'occuper des vignes, comme il aime le faire. Mais le Napoli va se mettre maintenant en quête d'un nouvel entraîneur. On parle beaucoup de Luis Enrique ces dernières heures, qui réclame beaucoup d'argent.
Il est à Paris, donc... déjà, de Yuan.
Alors, Luis Enrique, le candidat peut-être le plus abordable financièrement, c'est Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina. Et sachant que le Napoli va sans doute aussi changer très, très probablement de directeur sportif, puisque Giuntoli devrait aller à la Juve. Et donc, mais là, visiblement, c'est à peu près fait. C'est Accardi d'Empoli qui devrait prendre sa suite. Donc, entre un ou deux joueurs qui vont partir, l'entraîneur, le directeur sportif. Bon, j'espère que les supporters napolitains ont bien fêté le Scudetto, parce que il y a pas mal d'incertitudes pour le début de la saison prochaine.
C'est vrai que ça semble, on parlait tout à l'heure avec l'OM, mais ça semble beaucoup pour capitaliser sur le titre de cette année. Bon, il y a de quoi être un peu inquiet quand le coach du Napoli s'en va, non, le gars?
C'est pareil, Spalletti, il tourne beaucoup, hein. Il est un peu comme, il a une plus grande expérience, puis il a fait des mandats quand même plus longs que de fait Tudor, mais c'est pareil, il y avait quoi, une incompréhension entre De Laurentiis et Spalletti, c'est ça, Juan?
Il y a pas que ça, il y a effectivement De Laurentiis, c'est un président très très dur à vivre au quotidien, vraiment. C'est son club, c'est lui qui met l'argent, donc il décide, il est volcanique, il est très difficile dans les relations humaines, très froid, très distant, à la moindre chose qui va pas, il peut exploser, il prolonge le contrat de son entraîneur, enfin, il lève une option qu'il y avait dans le contrat de son entraîneur sans l'avertir, ce qui fait que l'entraîneur reçoit une notification sur son ordinateur lui disant: tiens, le contrat a été prolongé par votre président, sans même en parler. De Laurentiis n'avait pas appelé Spalletti le soir du titre. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Mais il y a aussi dans la justification, c'est pas que de la faute de Laurentiis, hein. Mais je pense que Spalletti a assez bien analysé la chose en se disant avec ce que j'ai fait là, comment je vais pouvoir faire mieux la saison prochaine. Et donc c'est aussi juste que si lui il le sente pas vraiment à 100%, qu'il fasse un pas de côté et qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre.
Les drôles de dames sont là, on tourne sur les terrains. On revient dans un instant avec toi, Johan, pour notamment la victoire de l'AC Milan ce soir face à la Juve, mais avec Fred Hermel, cette 37e journée de Liga qui avait lieu ce soir, tous les matchs en même temps, c'était multiplex. Qu'est-ce qu'il faut retenir de principal? Bon, ce qui est acté, c'est que l'Espagnol Barcelone descend, par exemple.
Ce qui est acté, c'est la deuxième équipe à descendre. Elche s'était fait depuis quelques semaines. L'Espagnol, on y reviendra demain, mais qui a souffert un calvaire arbitral sur la pelouse de Valence, parce que l'Espagnol menait 2-1. Enfin, je vous raconterai demain, mais c'est indécent ce qui s'est passé. Franchement, c'est pas dit.
Il s'en passe à Valence en ce moment.
Il se passe plein de choses là-bas, mais c'est vrai que l'Espagnol aurait pu être l'une des 6 équipes, plutôt la 7e équipe la semaine prochaine, à jouer son maintien. Alors comme l'Espagnol descend, ce qu'on retient de cette journée, c'est que la semaine prochaine, dimanche prochain, il y aura 6 équipes, Cadix, Almeria, Valence, Celta, Retafe, Valladolid, pour une place de descente en 2e division. Je veux dire, c'est quand même assez significatif que ce qui est de plus intéressant depuis le début de la saison, c'est la descente en Espagne. Ça dit beaucoup de la baisse de niveau et d'intérêt de championnat. On va retenir aussi que l'Atlético a assuré la 3e place, donc a assuré sa participation à la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite en janvier prochain. Que la Real Sociedad a, elle, assuré la 4e place, donc sa participation à la prochaine Ligue des Champions avec le RC Lens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça c'est une petite parenthèse personnelle. Et Villarreal et Betis joueront l'Europa League. Et vous avez 5 équipes qui vont se battre pour une place de Conference League: Osasuna, Athletic, Girona, Rayo et Séville. Vous imaginez que Séville était il y a encore quelques semaines virtuellement en deuxième division, que là elle joue mercredi une finale de Ligue Europa qui pourrait lui permettre d'aller en Ligue des Champions, et joue le week-end prochain la possibilité d'aller encore en Europe en Conference League. Il s'est passé des trucs dingues depuis l'arrivée du troisième entraîneur de la saison, José Luis Mendilibar.
Oui, décidément depuis le départ de Sampaoli ça va mieux à Séville. Yo, en Serie A, merci Giroud, l'AC Milan qui s'impose 1-0 ce soir sur la pelouse de la Juve. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir dans cette journée? Bon, difficile d'avoir des yeux partout, mais l'AC Milan en Ligue des Champions. Après, ce qu'on retient aussi du week-end, c'est que l'AS Rome ne sera pas en Ligue des Champions, et ça a une conséquence directe pour notre football, puisque l'OM est donc assuré de disputer les barrages.
Barrage.
C'est une bonne nouvelle pour le foot. C'est une autre conséquence, c'est que si la Roma veut jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine, c'est ce qu'il lui reste à faire. C'est-à-dire battre la finale mercredi soir. Oui.
Clubs qui sont dans la même position, d'ailleurs, ça qui est marrant, Yo, parce que d'habitude, on a toujours un club qui dans son championnat a brillé en même temps, mais là, c'est pas le cas.
Autant en Coupe d'Europe, Mourinho et la Roma, c'est une histoire d'amour, autant en championnat, c'est quand même très décevant, je trouve, depuis que le Portugais est arrivé. Alors, on y reviendra demain soir, mais c'est un peu une constante. Il y a quasiment aucun club en Europe, je trouve, qui a réussi à gérer les deux tableaux cette saison. Hormis Manchester City, entre Coupe d'Europe et championnat, vous avez plein d'exemples de clubs qui ont réussi à performer en championnat mais qui sont sortis très tôt en Coupe d'Europe. Je pense au Barça, je pense
l'Atlético
pour l'Espagne.
C'est peut-être encore plus vrai pour Mourinho avec ce style qui est de jeu qui est le sien, qui sur des matchs one shot entre guillemets, sur des matchs de coupe, s'exprime mieux comme ça.
Tout
ce qui d'ailleurs est un indice intéressant pour tous ceux qui veulent le recruter pour une saison complète en championnat.
C'est possible. Sinon à retenir,
après moi je suis pas un grand défenseur de Mourinho, mais l'effectif de la Roma, quand tu regardes les autres effectifs des grands clubs italiens, la Juve, l'Inter, le Milan, le Napoli, bon, il c'est pas non plus un effectif taillé pour le top 4.
Si. Désolé Stéphane, mais argument jugé irrecevable par moi-même parce que quand tu regardes la Lazio qui est deuxième, elle a un moins bon effectif que la Roma, clairement en plus.
D'accord.
Donc, elle a une masse salariale clairement en dessous de la Roma aussi. Alors, ça fait partie des exemples. Hein. La Roma, la Lazio a balancé la Coupe d'Europe et au final, elle a réussi à finir deuxième. Mais non, la Roma se devait de faire mieux en championnat, mais on y reviendra. Et juste dernier renseignement, Milan est donc en Ligue des Champions. On a les quatre clubs en Ligue des Champions. Donc évidemment, le Napoli champion, l'Inter, la Lazio et le Milan. Et le match ce soir, si j'avais dû le résumer en trois points entre la Juve et le Milan, premier point, ça aurait été déchets techniques en phase de construction. Point numéro 2, déchets techniques en phase de transition. Et point numéro 3, déchets techniques en phase de finition.
Sauf de la tête avec Giroud, qui, dans ce profil-là quand même,
son but est extraordinaire, Flo.
Il est éternel, il recule. Il va toujours très haut. Non, mais c'est intéressant de voir que comme ce profil est rare, il peut toujours être utile, même en équipe de France, même si je pense qu'à un moment donné, il faudra tourner la page.
Il nous reste très peu de temps, mais j'aurais qu'on accueille Julien Laurence. Salut Julien.
Ah. Salut Thibaut, salut Julien. À tous.
Et alors, salut. Il y a un petit sourire, il y a un peu de bruit derrière. Où es-tu Julien?
C'est une petite soirée de fin de saison, quelques joueurs de Première Ligue, voilà, c'est très sympa. Il faisait très beau aussi à Londres ce week-end, comme un peu partout j'imagine.
Mais change pas de sujet, la soirée, c'est quel club?
Oui, non mais... c'est un club londonien.
Très bien, il y en a 17.
C'est très sympa.
Il y a 2-1 dans le nom du club.
On fait de la deuxième place, quoi, c'est ça?
On fait une très bonne saison.
D'accord,
ça, c'est sûr.
D'accord.
Tu vas comme journaliste ou comme mari de...
Non, comme invité surtout, mon frère. Je fais un peu de tout ici, tu sais.
Et oui, la saison qui est terminée, la dernière journée de Première Ligue, c'était aujourd'hui. On a très peu de temps. Qu'est-ce qu'il faut retenir là, de cette dernière journée?
On jouait surtout pour ne pas descendre aujourd'hui entre Leeds, Leicester et Everton. Un de ces trois clubs-là allait se maintenir, les deux autres allaient être relégués. Le club qui s'est maintenu, c'est Everton, grâce à un but magnifique d'Abdoulaye Doucouré, bien sûr, qu'on connaît bien en France. Une reprise, une demi-volée, on va dire, qui a donné la victoire donc à son équipe contre Bournemouth. Ça a été tendu un petit peu jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu à la fin du match. Mais finalement, ça a suffi donc pour garder Everton une saison de plus à 70e dans l'élite anglaise, alors que de l'autre côté, Leicester, 6 ans simplement après le titre de champion d'Angleterre, descend donc en Championship avec Leeds, qui donc fait un petit peu le yo-yo puisqu'ils sont restés 3 saisons en Première Ligue. Mais voilà, ils accompagneront donc Southampton qui est descendu. Et on sait maintenant que le troisième club promu de Championship, c'est Luton et son stade incroyable. Je ne sais pas si Steph a déjà été.
Non, déjà allé.
Moi, j'ai vu les images, c'est incroyable. Hein, c'est une maison.
10 000 places, non, mais c'est, voilà, c'est tout sauf un stade de première ligue. Mais surtout c'est l'entrée, le charme aussi.
La porte, elle est dingue. On a l'impression
d'être. Une des entrées où tu passes par les maisons, effectivement.
Les deux autres promus, Julien, rappelle-les-nous, s'il te plaît.
Donc, Sheffield United et Burnley qui sont donc montés eux directement sans passer par les playoffs.
Il n'y a pas un Saliba ou un Gabriel Jesus que tu pourrais mettre à l'antenne, là, Julien?
Pas là, ça danse un petit peu. Je vois ce que je peux faire pour plus tard, mais là c'est un peu tôt encore.
Peu tôt. Et après plus tard, ce sera trop tard. Merci beaucoup, Julien Laurence. Et vous Fred Hermel,
une petite info qui fait très bien vite, plaisir. Fred. C'est le retour de Las Palmas en première division. Donc les Canaries, c'est comme des îles un peu lointaines qui sont. C'est l'Espagne, mais c'est au large de l'Afrique. Le retour d'une équipe des Canaries en première division, c'est toujours important pour la cohésion nationale.
Canaries qui
montent
et des Canaries qui risquent de descendre.
Oui, peut-être. Parce que ça fait des beaux déplacements pour ceux qui suivent le foot. Merci les gars, on vous retrouve demain à 22h pour Génération After spécial Drôle de Dame. Stéphane et Flo, merci les gars, c'était un plaisir.
Avec plaisir.
Vite fait, mais vite fait, bien fait, comme on dit des fois. Merci à Jérôme Thomas, Daniel Torres, Adri au standard et merci surtout à vous d'avoir été là, fidèles comme d'habitude. L'After revient demain 20h. Bonne nuit l'équipe.
RMC, l'After Foot.